Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité, ce jeudi 12 mai 2022. En Australie, le ministre de l'Environnement de Nouvelle-Galles du Sud annonce le déploiement d'un réseau de stations de recharge de voitures électriques. En Ukraine, les Russes se heurtent à la détermination de l'armée ukrainienne, mais aussi de celle des simples civils engagés à repousser leurs envahisseurs. On ira ainsi à la rencontre de pilotes de drones qui causent beaucoup de tracas à l'armée russe. Et puis enfin, dans les territoires palestiniens, beaucoup d'émotions aujourd'hui après qu'une journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akla, a été tuée d'une balle dans la tête durant un reportage en Cisjordanie hier. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud vient d'annoncer le financement d'une première station de recharge de véhicules électriques située dans le quartier de Pyrmont à Sydney. D'après Matt Kean, le ministre de l'Environnement de l'État, cette première station de recharge servira de modèle au déploiement de tout un réseau de stations de recharge à travers l'ensemble de la Nouvelle-Galles du Sud.
I want to see New South Wales be the best place to drive and to run an EV, and that's why we've got a number of policies in place that will see us lower the cost of EVs and also ensure that you can get them on the road as soon as possible, which is exactly why we're rolling out this program to upgrade buildings and apartment blocks right across New South Wales to ensure that they're ready for the EV revolution which is coming.
Les autorités viennent de publier un rapport préliminaire concernant le crash d'un hélicoptère survenu au mois de mars dernier près de Mount Disappointment dans l'état du Victoria et à l'issue duquel 4 passagers sont morts ainsi que le pilote. D'après Angus Mitchell, le commissaire de l'Australian Transport Safety Bureau, l'autorité en charge donc de l'enquête, ces premiers éléments d'information commencent à dessiner une image plus précise de ce qui a pu se passer.
The two helicopters were flying under visual flight rules, that is flying using visual references rather than instruments. As they approached Mount Disappointment, the pilot of the first helicopter, some 3 kilometres ahead of the second, reported entering increasing cloud cover and broadcast to the other pilot their intention to turn around. Prior to the accident, flight track data showed the second helicopter conducting a left descending turn.
Et dans le Queensland, la police a arrêté un homme suspecté de trafic de drogue et ce, dans le cadre d'une enquête commencée il y a à plusieurs milliers de kilomètres de là. Il s'agissait d'une enquête sur la mort d'un plongeur sous-marin dont le corps a été retrouvé en début de semaine, chargé de 54 kilos de cocaïne à proximité du port de Newcastle. Des détectives en charge des affaires de crimes organisés ont donc placé en garde à vue un homme de 62 ans alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion à destination de Singapour. Il a été mis en examen pour l'importation de grandes quantités de stupéfiants. Les 54 kilos de cocaïne retrouvés lundi avec ce plongeur décédé ont une valeur estimée de 20 millions de dollars. Au 78e jour de la guerre en Ukraine, un responsable pro-russe de la ville de Kherson, à l'est du pays, à proximité de la Crimée, a affirmé que la région s'apprêtait à réclamer son annexion par la Russie. En revanche, dans la ville de Kharkiv, au nord-est du pays, les forces ukrainiennes disent avoir fait reculer l'armée russe. En tout cas, la plupart des experts ne s'attendaient pas à ce que les Ukrainiens tiennent aussi longtemps face aux Russes. Et l'une des raisons à cette résistance, eh bien, c'est le nombre important de civils qui ont répondu à l'appel de leur président, Volodymyr Zelensky, et qui sont entrés donc en résistance. Parmi ceux-ci, l'un des groupes les plus connus est composé de pilotes de drones, mais aussi de passionnés de nouvelles technologies. L'un de leurs principaux faits d'armes, c'est d'avoir abattu un char russe à l'aide d'un drone qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes. Muriel Paradon et Sami Bourhelifa, envoyés spéciaux de RFI en Ukraine, les ont rencontrés.
En une fraction de seconde, le drone décolle. Aux commandes,
Father of drone.
Le père des drones, autrefois prêtre.
J'ai toujours été proche du ciel.
Au sens spirituel comme au sens propre, plaisante Vadim. Passionné de photographie, il construit son premier drone pour prendre des clichés aériens. En 2014, la guerre du Donbass éclate en Ukraine. Il met son savoir-faire au service de l'armée. Depuis, il ne cesse de développer des petits avions télécommandés.
Nos drones sont très efficaces car ils sont très précis. En emportant seulement trois petites charges explosives, le drone peut détruire un gros char. Nous utilisons des bombes qui datent de l'époque soviétique. Elles ne nous coûtent presque rien. Pour un dollar investi dans mon équipement, je détruis l'équivalent de 10 000 dollars d'armement russe.
Léger, maniable, le drone de Vadim pèse 5 kilos. 300 mètres d'altitude, 10 km de portée. Une arme d'attaque redoutable qui a stoppé net l'avancée des troupes russes vers Kiev.
Sur le terrain, les Russes changeaient rapidement de position, mais grâce à nos drones, nous pouvions traquer leurs déplacements. Sans les drones, nous aurions eu beaucoup plus de soldats ukrainiens tués.
Pas question pour Vadim de révéler le nombre de drones dont dispose l'unité Aero-Rozvidka. Mais il l'assure, l'ensemble du territoire ukrainien est couvert. Samy Bourkifa, Muriel Paradon, Kiev, RFI.
Aux États-Unis, les démocrates ont tenté et échoué à faire adopter une loi au Sénat visant à rendre l'avortement légal. Ça n'est à vrai dire pas vraiment une surprise dans la mesure où les démocrates sont en minorité à la Chambre haute. Il s'agissait là plus d'un vote symbolique destiné à faire pression sur la Cour suprême dont on a appris il y a quelques jours qu'elle s'apprêterait à annuler une décision qui, dans les faits, avait rendu l'avortement légal en 1973. À l'issue de ce vote manqué, la vice-présidente Kamala Harris a pris la parole et rappelé que la majorité des Américains sont favorables au droit à l'avortement et qu'ils doivent le faire savoir lors des prochaines échéances électorales.
This vote clearly suggests that the Senate is not where the majority of Americans are on this issue. A priority should be to elect pro-choice leaders at the local, the state and the federal level.
États-Unis toujours, un rapport du département des affaires intérieures révèle l'un des aspects les plus sombres de l'histoire américaine. Ce rapport révèle en effet qu'au moins 500 enfants amérindiens sont morts alors qu'ils étaient intégrés de force dans des pensionnats entre le 19e siècle et les années 60. Ainsi, plus de 400 écoles ont été identifiées ainsi qu'une cinquantaine de charniers. Des révélations qui ont profondément troublé Deb Hallan. Elle est elle-même d'origine amérindienne et membre du département de l'intérieur. Elle estime que le sort subi par ses enfants est également une blessure profonde pour les familles auxquelles ils ont été arrachés.
Each of those children is a missing family member, a person who was not able to live out their purpose on this earth because they lost their lives as part of this terrible system.
À Ramallah, dans les territoires palestiniens, des centaines de personnes se sont rassemblées pour honorer la mémoire de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akla, tuée hier d'une balle dans la tête alors qu'elle était en reportage en Cisjordanie pour couvrir une opération de l'armée israélienne. La chaîne Panarabe, pour laquelle elle travaillait depuis 25 ans, accuse l'armée israélienne de l'avoir abattue de sang-froid. Les Nations Unies, pour leur part, demandent l'ouverture d'une enquête internationale et indépendante pour en savoir plus sur les circonstances de son décès. Mais pour Christophe Deloire, le directeur général de Reporters sans frontières, la mort de Shirin Abu Akla est surtout un signe de la dégradation de la liberté de la presse dans les territoires palestiniens.
Il y a quelques jours, nous avons publié notre classement mondial de la liberté de la presse et la Palestine perdait 38 places, c'est-à-dire vraiment dans les tout derniers pays. Cette dégradation, elle est due à des facteurs proprement palestiniens, mais aussi évidemment aux interventions israéliennes, aux tirs délibérés. Dans 4 jours, ça fera exactement un an qu'une tour de télévision a été bombardée à Gaza, une tour qui abritait notamment les bureaux de la chaîne Al Jazeera, au prétexte que des terroristes s'y seraient trouvés, mais les autorités israéliennes savaient pertinemment qu'il y avait là des bureaux. Il y a une forme d'accumulation, donc on ne peut prendre les propositions ce matin des autorités israéliennes, du ministre des Affaires étrangères Yair Lapid, d'une commission d'enquête conjointe, qu'avec une très grande circonspection, qu'avec beaucoup de prudence, parce que malheureusement, les autorités israéliennes, au fil des dernières années, elles n'ont pas montré de très bonnes intentions, au contraire, s'agissant des journalistes en Palestine.
C'était donc le directeur général de RSF qui répondait aux questions de Vincent Souriau pour RFI. À l'autre bout du monde, à New York, les Nations Unies discutent en ce moment de la question de la prolifération nucléaire et notamment des tirs de missiles et des menaces régulièrement proférées par la Corée du Nord. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU estiment que l'invasion russe en Ukraine a créé un terrain favorable pour le dictateur Kim Jong-un afin de poursuivre ses projets de développement militaire, mais aussi accélérer ses tests de missiles. D'après plusieurs analystes, la Corée du Nord cherche ainsi à asseoir son statut de puissance nucléaire pour ensuite pouvoir négocier avec les États-Unis la levée des sanctions économiques qui frappent ce régime. Une stratégie risquée, d'après Barbara Woodward, la représentante permanente du Royaume-Uni à l'ONU, pour qui cette course à l'armement menée par Pyongyang représente d'abord et avant tout une menace pour la sécurité de la région.
This year alone, as we've heard, North Korea has launched 17 ballistic missiles, each in violation of UN Security Council resolutions. In the whole of 2021, North Korea conducted 8 missile tests. So let's make no mistake about the escalation in tempo and missile capability that these 17 launches represent.
En France, la nouvelle alliance de la gauche, emmenée par Jean-Luc Mélenchon, est confrontée à sa première polémique. L'un de ses candidats, le journaliste militant Taha Bouafs, avait annoncé lundi qu'il se retirait de la course aux législatives. Il était candidat dans le département du Rhône, expliquant sur les réseaux sociaux qu'il ne supportait plus les attaques racistes et le harcèlement que lui auraient infligé ses opposants. Mais hier, il a été révélé dans la presse qu'il est sous le coup de plusieurs accusations de violences sexuelles. Il est accusé par au moins 3 femmes différentes de violences sexuelles. On écoute Aurélien Devernoy de RFI pour en savoir plus sur cette affaire.
Le dossier aurait dû rester confidentiel et cela aurait bien arrangé les dirigeants insoumis. Après une journée passée à vilipender politique et médias pour avoir eu raison de la patience de Taha Bouafs, ils ne peuvent que constater les dégâts. À la suite des informations publiées par Mediapart et BFM, le comité de suivi des violences sexuelles et sexistes de LFI a reconnu qu'un témoignage accusant le journaliste et militant antiraciste a bien été reçu samedi dernier et qu'à l'issue d'une audition lundi, il a été signifié au candidat qu'il risquait de ne pas être investi au vu de la gravité des faits reprochés. Dans la foulée, Taha Bouafs jette l'éponge, mais sans évoquer le sujet. Jean-Luc Mélenchon, qui avait dénoncé la meute s'acharnant contre le jeune homme et regrettant de n'avoir pas su le réconforter, explique désormais n'avoir pas été au courant des accusations pesant sur Taha Bouafs. Reste que la page a été très vite tournée. Dès mardi soir, un nouveau candidat insoumis a été désigné. Un enchaînement qui laisse dubitatif au Parti communiste qui souhaite toujours récupérer l'investiture de l'Union des Gauches dans la circonscription concernée.
Et on jette maintenant un œil à la météo de ce jeudi en Australie. Alors, si vous avez l'impression que c'est humide là où vous êtes, rassurez-vous, c'est le cas pour à peu près tout le monde aujourd'hui. Par exemple à Perth, où il ne fait que 18 degrés. À Adelaide, des nuages et 20 degrés prévus. Quelques averses aussi à Melbourne, 19 degrés au thermomètre, 23 degrés et des fortes pluies aujourd'hui à Sydney. Temps humide également à Brisbane où il fait 24 degrés, 30 degrés à Cairns et jusqu'à 32 degrés à Darwin aujourd'hui.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.